When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, bienvenue dans Enquête d'Esprit, une émission pour vous donner aujourd'hui du réconfort et de l'espérance, puisque nous allons porter un regard chrétien sur la vieillesse. L'Église en fait un temps béni pour prier, pour s'abandonner à Dieu, pour préparer sa mort aussi, et ses paroles sont précieuses. Alors comment avancer en âge le mieux possible, avec quelle arme spirituelle? Comment aborder les questions sur la fin de vie sans croire en l'immortalité de l'âme? Et si on y croit, eh bien, comment ne pas rater ce moment, parce que finalement, tout est lié. Eh bien, on en parle avec Sœur Marie-Claude de la Congrégation des Augustines de Malétroit, avec Nathalie Saraco, auteure, réalisatrice, et puis avec Adrien Seret, médecin généraliste spécialisé dans les soins palliatifs. Une émission en partenariat avec France Catholique, mais d'abord le journal des informations religieuses de la semaine, présenté par Isabelle Piboulot. Le journal présenté par Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
On commence avec les paroles du pape François cette semaine sur la dignité humaine.
Oui, la déclaration sur la dignité humaine intitulée Dignitas Infinita a été publiée lundi 8 avril par le Vatican. 14 thèmes traités, tous choisis par le pape François. Des sujets à la fois éthiques, sociétaux, politiques, mais aussi religieux. Les détails avec Éloi Rochebrune.
La position du Vatican ne change pas. Le suicide assisté et l'euthanasie sont des violations graves de la dignité humaine. Ce sont en ces termes qu'ils sont qualifiés dans la déclaration Dignitas Infinita, publiée mardi 7 avril par le Dicaster pour la doctrine de la foi. Un texte fruit de 5 ans de travail et approuvé par le pape François, dans lequel il condamne sans concession aussi l'avortement qu'il qualifie d'homicide. Il propose ainsi quelques éléments de réflexion et affirme que tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se développer pleinement. Il estime que lorsque ce principe élémentaire n'est pas préservé, il n'y a d'avenir ni pour la fraternité, ni pour la survie de l'humanité. Le souverain pontife invite donc tous les pays à respecter le droit de vivre dans la dignité. Une dignité humaine menacée aussi par la pauvreté et par la guerre. Le texte fait état d'une troisième guerre mondiale par morceaux. Des conflits qui ne résoudront pas les problèmes, mais les accroîtront selon le Vatican, qui s'inquiète du sort de tant de civils innocents qui meurent en dehors des champs de bataille.
Un projet de loi sur une aide à mourir a été présenté mercredi en Conseil des ministres. L'Église de France est très fortement opposée à toute évolution de la loi en vigueur. Elle s'investit depuis longtemps auprès des malades, grâce notamment aux aumôniers d'hôpitaux. Écoutez ce témoignage du père Olivier Darlincourt, aumônier de l'hôpital Sainte-Périne à Paris.
Je pense que le rôle de l'Église, c'est témoin de la vie, hein, la résurrection du Christ est témoin de la vie des êtres humains, et puis aussi, quand c'est possible, de leur montrer le chemin du ciel. J'ai un petit souvenir comme ça d'une chose qui est à peu près similaire, hein, en réa, quand j'étais aumônier d'hôpital à Saint-Joseph, à l'hôpital Saint-Joseph. Une infirmière athée me dit « Vous venez prier tous les jours auprès de ce malade, enfin j'imagine que vous priez puisque je ne sais pas ce que c'est que la prière, mais en étant là tous les jours, en étant à genoux au pied de ce lit, vous donnez du sens à ce que je fais. » Et moi je me souviens lui avoir dit en retour « Écoutez, vous donnez aussi du sens à ce que je fais puisque par les soins que vous prodiguez, par les gestes que vous faites, pas simplement avec professionnalisme mais aussi avec délicatesse, bien par tout ça, vous me rappelez aussi que la personne auprès de laquelle je suis est une personne vivante, quand bien même elle peut être dans un coma profond. »
En Irak, les chrétiens de Mossoul renaissent de leurs cendres. Ils ont pu célébrer dimanche dernier une messe dans leur église fraîchement restaurée, 10 ans après l'arrivée du groupe État islamique dans la ville. Le récit d'Éloi Rochebrune.
À Mossoul, ce clocher est flambant neuf. Il y a 10 ans, cet édifice était le siège de la police religieuse de l'État islamique. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent assister à la messe inaugurale librement, comme ce retraité Abdelmassi Selim.
En ce jour, j'ai l'impression que la vie est revenue après une longue période suite à notre déplacement par les combattants oppresseurs de l'État islamique. C'est notre église et notre lieu de naissance.
À l'intérieur, tout a été refait, avec l'aide notamment de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient. Toutes les statues et les crucifix avaient été détruits, remplacés par des pancartes de l'État islamique. Le patriarche de l'église chaldéenne qui a fait le déplacement se souvient.
Je l'ai visitée après la libération. Elle avait été détruite, je n'ai pas pu la reconnaître. C'est notre pays et notre terre. Nous sommes là pour rester, même si nous ne sommes plus très nombreux.
Malgré la restauration de l'église, la communauté a perdu beaucoup de fidèles. En 2003, il y avait 1,5 million de chrétiens en Irak. Aujourd'hui, ils sont 400 000. Et la situation politique ne permet pas leur retour, comme nous l'affirme cette directrice d'école.
Tout d'abord, les maisons sont détruites. Il n'y a pas d'aide. Comment les gens vont-ils vivre dans des maisons détruites s'ils reviennent ? Nous n'avons pas d'emploi, nous sommes déplacés, nous n'avons rien. Si l'État et le gouvernement local ne nous aident pas, comment les gens pourront-ils retourner chez eux ?
Jadis, au lieu du christianisme, Mossoul et sa plaine de Ninive tentent de retrouver un semblant de normalité, 7 ans après la fin de l'oppression de l'État islamique.
Une chapelle dédiée à Saint-Charles de Foucault devrait voir le jour à Nîmes, au 2e régiment étranger d'infanterie. Depuis 2021, le projet d'aménagement de la nouvelle chapelle du régiment a eu lieu. Coût des travaux, 400 000 euros. Une campagne de dons a été lancée sur Credofunding pour terminer le chantier. Enfin, la figure du cirque équestre Alexis Grus s'est éteinte samedi dernier à l'âge de 79 ans. Ses proches et le monde du cirque lui ont rendu hommage lors d'une cérémonie religieuse à l'église Saint-Roch à Paris jeudi. Souvenez-vous, sur notre plateau pour Noël 2022, Alexis Grus nous avait partagé sa foi profonde. Écoutez son témoignage.
Et le soir de la messe, le soir du 24, il y avait eu déjà de très très fortes rafales de vent. Et le chapiteau était archi-con, j'ai failli faire... c'est la seule messe de minuit auquel je n'ai pas assisté, je faisais tourner autour du chapiteau pour voir si tout allait bien. Et dans la nuit du 26, les arbres sont tombés, tout ça, et cette croix qui est au-dessus de l'olivier, c'est une croix qui a été fabriquée par une maison employée polonaise dans un arbre qui était tombé sur le chapiteau. Il a taillé le bois, il a taillé les branches pour en faire une croix. Et cet employé qui était polonais s'appelait Joseph.
Alors, il n'y a pas de hasard, finalement.
Il n'y a pas de hasard.
Merci d'avoir suivi cette édition. La suite avec Véronique Jacquier, c'est tout de suite.
Merci Isabelle Piboulot pour ces informations religieuses de la semaine. Le chapelet, plutôt que les mots croisés, ça pourrait être ça la vieillesse. Hein. On va en parler parce qu'on va mettre la vieillesse au cœur de notre vie. Mais on va d'abord aborder ce qu'elle a de riche, ce qu'elle peut apporter à tous ceux qui regardent bien entendu cette émission. En quoi l'Église d'ailleurs en fait un trésor. Et j'ai un témoin merveilleux pour en parler, c'est Sœur Marie-Claude. Bonjour Sœur Marie-Claude.
Bonjour.
Vous faites partie des Augustines de Malétroit, vous avez 84 ans, vous suivez la règle de Saint-Augustin. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes des Augustines. Malétroit, c'est en Bretagne, à 35 km de Vannes. Vous êtes entrée chez les Augustines à 20 ans, ça veut dire que vous avez 62 ans de vie consacrée et vous êtes incroyablement lumineuse. Aujourd'hui, vous avez été longtemps au service des malades, des personnes âgées, mais aujourd'hui, vous êtes à l'accueil hein, des Augustines de Malétroit, en partie. Oui, vous occupez partie. Aussi du secrétariat de mère Yvonne Aimé, voilà. Qui est la grande figure des Augustines de Malétroit, on en dira un petit mot. J'accueille aussi Nathalie Saraco, bienvenue.
Merci.
Vous êtes réalisatrice et auteure de nombreux ouvrages, dont le dernier, qui va nous servir un petit peu de cœur pour notre discussion. En avant les vieux, vous êtes l'armée du bon Dieu, c'est publié chez Arthège. Vous avez aussi une émission mensuelle sur Radio Maria et une chaîne YouTube qui cartonne. Et puis également notre compagnie, Adrien Seret. Bonjour Adrien, vous êtes médecin généraliste spécialisé dans les soins palliatifs. Vous êtes spécialisé et vous travaillez au sein de différents établissements en région Centre-Val de Loire, hein, en coordination avec des EHPAD bien entendu, mais avec certains EHPAD qui ont la spécificité de proposer un accompagnement chrétien. Donc ça c'est très intéressant. On va voir sans accompagnement chrétien et avec accompagnement chrétien et on va voir que ça change tout. Alors tout d'abord, Nathalie Saraco, vous vous êtes posé une question en écrivant votre ouvrage. les vieux armés du bon Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Église fait trop de jeunisme, elle mise trop sur une évangélisation avec les moins de 25 ans, et vous vous dites qu'on avance tous en âge, et il n'y a rien à faire, on ne s'occupe pas de ces vieux qui sont finalement un réservoir de prière, c'est ça ?
Bah, c'est vraiment très triste. Je me rends compte que les personnes âgées sont vraiment les dernières roues de la charrette de notre monde totalement individualiste. Et ce qui est fou, c'est que même à l'intérieur de notre Église, effectivement, il y en a pour que les jeunes. Les jeunes, et alors les vieux, ils comptent pour des prunes ou quoi? Donc oui, c'est quelque chose de terrible. Et moi, j'ai découvert le problème de l'intérieur parce que j'ai la grâce de m'occuper d'une vieille princesse qui a fêté ses 95 ans. Et je me bats pour qu'elle reste à la maison, pour qu'elle n'aille
pas... C'est
votre
maman?
Bah oui, ma petite maman que je salue. Maman, je t'aime. Et en fait, c'est quelque chose de très difficile... Vraiment la vieillesse, c'est comme s'il y avait, enfin je sais pas, le docteur peut me dire, mais c'est comme s'il y avait deux vieillesses, une première vieillesse qui est encore gérable à peu près, on va dire jusqu'à 84 ans, quand tout va bien, ok, quand on est un bon gaillard, et une deuxième vieillesse au-delà de 84 ans qui est quelque chose de complètement surréaliste. Et effectivement, dans l'Église, ben, les personnes âgées, voilà, alors on les salue, on les à la fin de la messe, mais ben, en fait, il n'y a pas grand-chose pour elles et il y a une déconsidération finalement. En fait, elles sont transparentes. Voilà, plus on prend de l'âge, plus on devient transparent. Vous savez, comme pour finir comme dans la série L'homme invisible, jusqu'où ça peut aller, c'est terrible.
Sœur Marie-Claude, est-ce que c'est ainsi que vous ressentez les choses, vous qui avez 84 ans ?
Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes dans la vieillesse. Et pour l'instant, moi, je me sens encore en forme. C'est vrai, même si l'âge quand même me fait comprendre que je n'ai plus ce que j'ai, les forces que j'ai eues dans le passé. Mais néanmoins, je peux encore faire des choses. Et je devine que plus ça va aller, plus on va... aller vers un plus grand abandon, une plus grande remise de soi à Dieu. Plus je vais, plus je découvre comment cette étape de nos vies, c'était vraiment un cadeau de Dieu. Un beau cadeau, parce que on a tellement à rendre grâce. Et pour moi, c'est ça. Faut prendre ce temps-là comme possibilité de prendre plus de temps avec Dieu, de rendre grâce. Et surtout... Ce qui m'émerveille, c'est que plus j'avance, plus je découvre comment on est aimé de Dieu. Qu'il nous aime, mais gratuitement, de miséricorde. Qu'il n'a qu'un désir, c'est de se donner à nous. Alors, ben, j'essaie de lui donner cette joie en accueillant son amour et en m'abandonnant à lui, en me laissant aimer tout simplement. Voilà, même s'il y a les misères de la vie qui arrivent, mais c'est tellement beau aussi de vivre cela.
Adrien Serret, magnifique témoignage. Hein. Est-ce que vous diriez que plus on avance en âge, vous qui avez une expérience de médecin, y compris en soins palliatifs, plus on porte son âme sur son visage si justement on sait vivre chrétiennement les choses ?
Oui, tout à fait. Merci pour votre témoignage. C'est ce que je constate, moi, dans mon métier, sur le terrain, au contact des personnes âgées, hein, que j'ai la chance d'accompagner, d'écouter, de contempler. Vraiment, les personnes âgées ont tout à nous apprendre. Malheureusement, aujourd'hui, notre société mise tout sur le culte du corps, le jeunisme, comme vous avez dit, et marginalise un petit peu toutes les personnes âgées. Alors qu'elles sont le creuset de notre humanité, parce qu'elles révèlent nos propres fragilités. Et de les marginaliser ainsi, avec tout notre système EHPAD, qui n'est pas forcément bien adapté, c'est prendre le risque d'oublier qu'on est soi-même fragile, qu'on est mortel, et qu'il faut se préparer. Donc on a tout à y gagner, de vous accompagner, de vous écouter. Parce que vous êtes dans un processus, bien évidemment, de vieillissement, on va peut-être en reparler, mais de vieillissement physique, corporel. Vous avez les cellules qui se meurent, mais pas la mort de la vie de l'esprit. Et vous avez tout un enseignement à nous donner sur la vie de l'esprit, l'intelligence, la volonté, la connaissance, les transmissions de savoir. Et l'amour, bien sûr, vous diffusez l'amour. Et grâce à vous, grâce à vous-même, on peut se mettre à votre service, c'est-à-dire vous accompagner, vous soulager, prendre soin de vous. Donc vous êtes le joyau, entre guillemets, de notre humanité. Et alors, pour ça, je vous remercie.
On va passer en revue les solutions chrétiennes qui font que l'Église propose de faire de la vieillesse une sagesse, hein, ce qui existe encore dans certaines civilisations. Mais je vous propose tout d'abord d'écouter les réactions de certaines personnes à qui nous sommes allés demander si pour elles, selon la fameuse phrase du général de Gaulle, la vieillesse était un naufrage. Vous allez voir, les réactions sont très différentes.
La vieillesse, c'est un naufrage. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix, je crois.
Oui, on n'a pas le choix et ça fait peur quand même.
Pour quelle raison ?
On oublie de jouer, on oublie beaucoup de choses, trop pris par les contraintes.
Ça fait partie de la vie, c'est une étape comme toute autre, mais c'est un peu la plus importante pour certains.
C'est plus sur le niveau de santé que j'ai peur ou non de vieillir, mais pas sur un autre plan. Peut-être le travail, oui, mais en général, vieillir, c'est assez cool. Ça, c'est bien, on est plus posé dans la tête, etc. Mais c'est plus au niveau de la santé.
La vieillesse, c'est le début du départ. Voilà. Et tant qu'on est là, comme on est bien ici, on voudrait rester ici le plus longtemps possible.
Je dirais que c'est pas une mauvaise chose de vieillir, mais j'aimerais bien qu'on reste en vie toute la vie. Voilà. Enfin, on reste en vie pour toujours. Plus je grandis, plus je me sens alignée avec moi-même. Donc je me dis que si ça continue, bah, ça sera ouf, genre à 80, 100 ans, quoi.
Voilà, on a entendu la vieillesse, c'est le début du départ. C'est assez joli, finalement, comme résumé Nathalie Saraco, non ?
Oui, mais le départ pour aller où ? Elle est quand même là, la question. Et la direction, la finalité est éternelle, n'est-ce pas, ma sœur ? Donc, pour revenir à la question, la vieillesse est-elle un naufrage ? Ça dépend comment on la vit. En fait, si on la vit de manière totalement matérialiste, en voulant reproduire les choses que nous pouvions faire plus jeunes dans nos vertes années, eh bien, on va devenir une espèce de... On va très vite s'aigrir, on va devenir grimaçant, mais grimaçant non seulement physiquement. Vous savez, ces femmes qui veulent être belles jusqu'au bout, là, comme dans Blanche-Neige, avec le miroir. Et est-ce que si on aborde la vieillesse, en fait, sans Dieu, c'est une catastrophe, c'est clair et net. Et si on aborde la vieillesse avec Dieu, ça devient une offrande, ça devient surtout un moment propice où justement les personnes âgées disposent d'un trésor qui se nomme le temps. Quand on est dans la vie active, on court après le temps, on est tous sous la dictature du temps, on court comme des petits rats de laboratoire. Et les personnes âgées donc disposent du temps et si elles utilisaient le temps justement à se remettre positivement en question et à s'ouvrir vers ce Dieu que parfois elles ont souvent fui plus jeunes.
Alors le temps, effectivement, est un trésor, trésor de prière, trésor d'abandon, on va détailler tout ça. Mais tout d'abord, Adrien Serret, je voudrais qu'on s'arrête sur la notion de temps, ça peut rimer aussi avec décrépitude. Hein. Vous nous avez fait part un petit peu de votre témoignage, sœur Marie-Claude. Temps peut rimer avec décrépitude et pourtant il faut s'arrêter sur cette notion en ce moment qui est quand même pas mal bafouée de dignité et d'indignité, comme si l'avancée dans l'âge rimait forcément avec indignité parce que potentiellement décrépitude. Voilà les propos du pape François, voilà ce qu'il a dit le 8 avril, donc il y a seulement quelques jours. L'idée que l'euthanasie et le suicide assisté sont compatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine est largement répandue. Face à ce constat, il faut réaffirmer avec force que la souffrance ne fait pas perdre à la personne malade la dignité qui lui est propre de manière intrinsèque et inaliénable. Cette dignité, racontez-nous justement comment vous l'avez sentie auprès des personnes qui avancent en âge, qui savent d'ailleurs que l'avancée en âge rime aussi avec la fin de vie.
Oui. Sur la question du naufrage et ensuite sur la dignité, pour moi, la vieillesse est la plus belle étape de la vie. On le voit. C'est la plus belle étape de la vie parce que justement, c'est celle qui précède l'étape de la mort et de l'éventuelle rencontre, la finalité dont vous parliez.
Plus belle étape de la vie si on s'est préparé.
Si on s'y est préparé, si on s'y prépare. Tout est question de l'état d'esprit dans lequel on avance. Donc, question du naufrage, non. Ça dépend vraiment de la définition de la vieillesse. Si on part sur une définition purement physique, physico-chimique, oui, les cellules se meurent petit à petit, s'étirent, se vieillissent, perdent leur fonction. On a des rides, on a des fractures et des voilà, on lutte plus difficilement contre les infections. Ça, c'est la vieillesse physique. Mais il y a aussi la définition, selon les quatre causes aristotéliciennes, le matériel, le formel, l'efficient. Donc c'est l'origine de la vieillesse, c'est la temporalité. On évolue dans une loi naturelle qui est imposée, c'est la temporalité. Et c'est surtout la cause finale, la définition de la vieillesse. Pourquoi on vieillit? Eh bien, on vieillit pour mourir. Et on meurt pourquoi? Pour deux raisons. On meurt pour une raison humaine, humaniste, altruiste, c'est-à-dire pour laisser la place aux générations ultérieures. Tout le monde a le droit de profiter de cette vie terrestre qui est magnifique, qui nous est donnée. Et la deuxième raison, elle est plus théologique, mais je me permets de la dire sur ce plateau, c'est ce que vous disiez. On meurt, on vieillit pour mourir, pour rencontrer son Créateur. Et donc, sur la question de la dignité, cette question, elle n'a plus lieu d'être. Oui. Même la DMD, l'Association des droits amoureux dans la dignité, reconnaît son erreur sur les débats sur l'euthanasie et le suicide assisté. La dignité, elle est ontologique, c'est-à-dire qu'elle est interne, elle est intrinsèque à notre humanité. Le fait d'être être humain nous permet d'être en dignité.
C'est complètement ça, on se pose la question. La première question, c'est... Il parle de dignité, mais c'est quoi la dignité pour ces gens-là qui sont là pour vouloir l'euthanasie et tout? Est-ce que la dignité, c'est la performance? Est-ce que c'est d'être jeune, d'être vraiment dans le rendement, dans ce... Voilà. Oui, la dignité, elle est, comme vous disiez, liée à la personne, à la créature de Dieu. On est tout personne, peu importe l'âge de son âge, son état de santé ou pas, est une personne sacrée.
Alors vous, sœur Marie-Claude, justement, vous vivez en communauté, donc vous n'avez pas ce souci, au contraire, vous êtes accompagnée. Mais je voudrais que vous nous disiez un mot avant d'aborder ce sujet de l'accompagnement et des richesses spirituelles que propose l'Église. Comment vous expliquez cette notion de dignité? Parce qu'on est tous enfants de Dieu?
Oui, pour moi, oui. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez, Adrien. C'est vrai que si on a conscience qu'on est des enfants de Dieu, notre grand désir, c'est de retourner là où nous sommes attendus. Et pour moi, cette étape-là, vieillir, c'est vrai que la vieillesse, elle est là avec tout ce qu'elle nous apporte. Mais en même temps, plus on avance en âge, plus il me semble qu'on devient jeune. Qu'on retrouve cette âme d'enfant pour retrouver notre Père qui nous attend. Et voilà, on est attendu et moi j'attends.
Et c'est très beau ce que vous dites, mais comment expliquer la symbolique de personnes âgées dans la Bible qui sont souvent des personnes très fortes, Abraham, Siméon qui attend de voir le Christ pour mourir. Qu'est-ce que ça nous dit justement de la vieillesse et de l'avancée en âge, ces grands personnages?
Eh bien qu'ils ne se sont pas fixés sur la terre, on n'est pas fait pour rester sur la terre, on est attendu. Et c'est ça, pour une vie de bonheur éternel. Et voilà, si on va vers cette rencontre-là, ça change complètement la vie. Attend. Alors c'est vrai qu'en même temps, ça va passer par des détachements, mais c'est en même temps une grâce que le bon Dieu nous fait. Parce qu'il veut tellement nous combler de lui. Mais si on est plein de nous, il ne pourra pas. Donc il faut être détaché. Il faut se détacher de beaucoup de choses. Bon, se détacher des activités qu'on a pu avoir dans le passé, de ses responsabilités, de beaucoup de choses. Et perdre aussi nos forces. Mais on va vers quelqu'un qui nous aime et qui nous attend. Ce n'est pas pareil.
Merci pour ce beau témoignage. On continue d'en parler. Vous allez voir, c'est passionnant parce qu'on va voir comment se préparer justement pour aller vers ce bon Dieu qui nous attend. Vous restez avec nous. Retour dans Quête d'Esprit, bienvenue. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, on parle de la vieillesse comme un trésor spirituel pour l'Église, mais pour la société aussi, parce que si on comprend comment mieux avancer en âge, comment le faire de la façon la plus sereine qui soit, c'est un bienfait pour l'entourage et pour toute la société. Alors, on en parle avec sœur Marie-Claude qui nous offre un magnifique témoignage du haut de ses 84 ans, sœur Augustine venue de Malétroit, avec Nathalie Saraco, auteur
auteure, réalisatrice, et puis avec Adrien Seret, qui est médecin généraliste et spécialisé dans les soins palliatifs. Tous les trois, vous avez une très belle sensibilité pour aborder ces questions-là qui ne sont pas faciles, hein, disons les choses. Pas facile, d'autant que nous sommes de plus en plus nombreux à avancer en âge. C'est inéluctable. La population française vieillit, la population européenne vieillit. Près de 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans en 2050. Trois fois plus qu'aujourd'hui. C'est dire les enjeux que représente la vieillesse et c'est dire que c'est un sujet en soi, un sujet de société, un sujet bien entendu spirituel. L'âge moyen de la perte d'autonomie, c'est 83 ans. Ce sont des sources qui émanent du ministère des Solidarités et de la Santé. Alors je vais quand même vous donner un petit peu de réconfort avant de vous laisser la parole avec des paroles justement de pape, parce que Benoît XVI s'est emparé de cette question de la vieillesse en disant « La qualité d'une société, je dirais d'une civilisation, se juge à la façon dont les personnes âgées sont traitées. Nous avons aussi le pape François qui a ouvert un cycle d'enseignement consacré à la vieillesse. C'était en février 2022. Que disait le Saint-Père ? Le vieillissement de la population doit inciter la société à mettre plus de qualité spirituelle dans les relations humaines. Le pape dénonce évidemment fréquemment l'isolement des personnes âgées, le manque de lien entre les générations, ça aussi c'est un sujet. Hein. Et puis le Saint-Père parle très souvent de la beauté de la vieillesse. Nous marchons vers l'éternité, dit-il. Nous les vieux devons être une lumière pour les autres. Alors, sœur Marie-Claude, vous incarnez ça merveilleusement, le fait d'être une lumière pour les autres. Mais qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui sont derrière leur télé et qui se disent « mais moi j'ai le sentiment d'être inutile. Je ne sais pas comment être une lumière. Comment ça marche finalement ? Quelles sont les solutions chrétiennes pour être une lumière ? »
Eh bien, déjà, ne pas rester centré sur soi et se tourner vers les autres, vers Dieu si on a la foi, bien sûr, c'est là ma grande espérance, mais aussi si on n'a pas la foi, il y a toujours les autres qu'on peut aider et leur apporter un petit réconfort suivant les possibilités qui nous restent. Mais par exemple, faire la lecture à une personne qui est devenue aveugle, ou apporter un sourire, ou est-ce que je sais, il y a tellement de petits services qu'on peut rendre. Et il y a aussi tous ceux qui sont dans la souffrance, comment on peut les aider ? Eh bien, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que Dieu a voulu devenir un homme et a tout pris de nous. Toutes nos souffrances, toutes nos peurs, toutes nos angoisses, nos impuissances. Il les a fait siennes. Et ça change complètement quand on explique ça aux gens. Elles ne sont plus toutes seules pour nous. Il les porte avec nous. Et non seulement il les porte avec nous, il les fait siennes et même divines. C'est incroyable. Puisqu'il a à la fois Dieu et homme. Donc, la valeur que ça prend. Mais c'est ça le trésor de l'Église.
Est-ce à dire qu'on peut offrir nos souffrances ? On a du mal à comprendre ça aujourd'hui. À comprendre que quand nos forces déclinent, eh bien on peut offrir quelque chose de nous-mêmes. C'est ça que vous nous expliquez, sœur Marie-Claude ?
Oui, parce que Jésus nous aime tellement qu'il s'est uni à nous, à chacun de nous. Et notre vie l'intéresse passionnément. Et c'est pour ça que je me dis, il ne peut pas nous laisser quelqu'un qui est dans la souffrance. Il est là, il se penche vers lui. Pour moi, c'est toute la miséricorde de Dieu penchée vers notre misère. Notre misère attire Dieu, attire sa miséricorde. Il faut savoir être là et lui donner. Et il apporte avec nous, lui offrir, tout simplement. Il va aider, il va porter avec nous.
Offrir nos croix, c'est ça ?
Oui.
Dans le temps, on entendait nos grands-mères parler comme ça. Nos grands-mères, d'ailleurs, qui étaient un réservoir de modèles chrétiens, si j'ose dire. Hein. On dit qu'il y a un boom des nouveaux baptisés, parce que souvent, les jeunes d'aujourd'hui ont l'exemple d'une grand-mère qui a été justement un trésor de foi et de transmission. Nathalie Saraco, oui, sur cette idée d'offrir et d'être un réservoir de prière et d'offrir ses croix. Comment vous entendez cela, vous ?
Déjà, merci, ma sœur, pour vos paroles. Et je dirais, moi, que finalement, la miséricorde du bon Dieu, c'est la plus grande entreprise de recyclage. Oui. C'est-à-dire qu'il accepte tout.
Alors la miséricorde par miséricorde, on entend l'amour de Dieu, oui, se penche dans la misère de l'homme, c'est ça?
Voilà, mais son amour fou pour nous. N'oublions pas qu'est-ce qu'est venu faire le Christ sur terre. Il est venu vivre par son incarnation. Il a ouvert cette histoire d'amour passionné avec l'être humain. Mais l'amour, ça se passe à deux. Voilà. On est bien content de recevoir l'amour de Dieu, son pardon par Jésus-Christ, mais aussi il attend notre réponse. Tout est là et c'est le sens de notre vie. Finalement, le libre arbitre, répondre au Seigneur, le chercher, tout est une question d'amour de Dieu et d'être des passeurs de son amour pour nos frères et sœurs.
Vous avez l'habitude de vous rendre dans une maison de retraite, non?
Oui.
Vous faites prier les gens, justement. Oui. C'est-à-dire, vous dites quoi? Vous dites, bon, les mots croisés, c'est bien gentil, mais ça ne vous remplit pas, ça vous remplit pas d'espérance. Mais,
bien sûr. Et on le voit bien de toutes les manières. Même, il n'y a pas d'âge pour ça. En fait, quand on s'ajuste à l'amour de Dieu, à sa volonté, on est d'un coup traversé, habité par une étrange joie, une étrange paix. C'est vraiment la marque de Dieu. Et quand on fait des choses à côté de la plaque, et je vois bien, dans les maisons de retraite, d'un côté, il y a ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui croient en Dieu, ils ont un autre éclat. Et ça, même quand on est plus jeune, on le voit. Aujourd'hui, vous avez des jeunes gens de 20 ans qui sont ternes, les pauvres, qui ont perdu cette joie, cette espérance. Oui. Et des personnes âgées qui abritent un cœur de jeune fille. Et donc, ça se repère tout de suite. En fait, on voit l'éclat d'une personne. C'est incroyable. S'il y a Dieu dans sa vie ou pas. Et effectivement, moi, je pense que, il faut profiter de ce temps, de ces prolongations que le bon Dieu nous donne de jouer, nous offre, pour pouvoir le chercher, s'abandonner à lui. Et vraiment, tout se joue jusqu'au dernier instant de notre vie. Parce que, n'oublions pas, la mort, c'est un passage. Et après, c'est l'éternité qui nous attend. Donc, il faut vraiment réaliser ça. Moi qui ai fait une expérience de mort imminente jeune, quand je me suis retrouvée, je passais de l'autre côté face au...
Vous nous en direz un mot à la fin de l'émission, d'accord, quand on abordera cette question de tout se joue au dernier moment.
Ben ouais, et finalement, c'est fondamental.
L'avancée en âge, c'est aussi se préparer à ne pas louper ce moment-là. Hein.
Ben complètement.
Mais c'est lié à votre expérience de mort imminente, c'est lié à la question de la souffrance et de ce qu'elle permet comme mise en mouvement sur la question du sens. Je m'explique. Pour rebondir sur la question de la souffrance, les vertus de la croix, c'est pour moi, il faut faire attention à ne pas verser dans le dolorisme. Non. Un petit rappel, ouais, ne pas verser dans le dolorisme, la mortification, donc la douleur pour la douleur. Non, il n'y a rien de bon dans tout ça. C'est d'ailleurs le rôle des soins palliatifs, de tous les soignants, de soulager les douleurs. C'est le combat le plus important dans le cadre de la vie, du vieillissement et de la fin de vie. Il faut soulager la douleur du corps pour libérer l'esprit, la vie de l'esprit, pour que celui-ci chemine, comprenne, accepte et se prépare à une éventuelle rencontre. Donc attention de bien distinguer dolorisme et offrande de sa souffrance. Mais pour rebondir sur votre EMI...
On a tous une croix de toutes les manières, qu'on croit en Dieu ou pas. Et donc la question, c'est de l'offrir ou pas, de vivre avec Dieu ou de mettre à la porte de notre vie.
C'est ça. Mais quand on vit une expérience de mort imminente ou une grosse souffrance, une maladie, cela peut être vertueux dans le sens où quand on est confronté à une maladie grave, on se met en mouvement sur des questions essentielles. Mmh. On a souvent tendance, quand on est bien portant, de rester en superficialité, en superficie de nos vies. Mmh. Alors que quand on est atteint d'une maladie grave, on rentre en profondeur et on aborde les questions qui font sens. Des questions philosophiques, des questions religieuses. Mmh. Et c'est en ça qu'on peut dire que la souffrance, entre guillemets, avec de gros guillemets, peut être bonne en soi.
Oui, mais elle n'est pas toujours bonne. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui, en avançant en âge, malheureusement, se fossilisent ou se sclérosent. Parce que peut-être qu'on peut appeler ça le poids du péché. Non, oui, sœur Marie-Claude. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à enlever cette gangue qui fait qu'on casse l'armure pour arriver à s'abandonner à Dieu. Souvent parce qu'on n'y croit pas, d'ailleurs, non?
Oui, je pense, oui. Et tout à l'heure, vous faisiez allusion à comment Dieu qui nous se propose à nous et qui attend aussi notre réponse. Et je pense effectivement que la grande souffrance de Dieu, qui nous aime tellement, c'est de voir qu'on ne l'accueille pas. Il se passe une paix profonde quand on s'ouvre à son amour. Et je rejoins aussi le docteur quand il dit Non, on ne va pas vers la souffrance. Personne n'aime la souffrance. On n'est pas fait pour ça, on est fait pour le bonheur. Et Dieu nous aime tellement qu'il est venu justement prendre toutes nos souffrances sur lui pour nous en délivrer.
Et comment peut-on comprendre cela en priant? Parlez-nous de la vertu de la prière, justement, dans l'avancée en âge.
Ah, la prière, pour moi, plus on avance en âge, plus elle devient toute simple. C'est comme deux amoureux, si vous voulez. Arrivés à un certain âge, ils n'ont plus tellement de choses à se dire. Ils sont là ensemble, ils sont heureux. Eh bien, c'est ça. On est avec Dieu qui nous aime, on s'aime. On est là comme un pauvre devant lui, mais voilà, on est heureux.
Ça s'apprend ou on a simplement à s'abandonner, justement, et à se confier?
Pour moi, oui, tout est là. Si vraiment on croit qu'on est aimé de lui, qu'il n'est que miséricorde, voilà.
Et bien vieillir, ça s'apprend. Oui. C'est l'apprentissage de passer du corps à la vie de l'esprit, comme je disais. Oui. Et la vie de l'esprit, c'est quoi? C'est la dimension immatérielle de notre être, qui a certaines facultés, l'intelligence et la volonté. Et les fruits de l'intelligence et de la volonté, c'est la connaissance et l'amour. L'amour des autres, mais l'amour de Dieu. Et la prière, c'est simplement notre pensée qui cherche à se connecter à la source d'amour qu'est Dieu. Et c'est merveilleux, puisque les personnes âgées ont tout le temps pour justement rentrer de plus en plus dans la vie de l'esprit, puisqu'ils n'ont plus leur corps. Leur corps se décharne, se dégrade, c'est ainsi, mais la vie de l'esprit perdure. Et donc, ils peuvent employer cet esprit pour connaître et aimer. Et donc, entrer en intelligence et en amour avec, par le biais de la prière, en contact avec les autres et avec le Dieu créateur.
Oui, donc finalement, Marie-Claude. Oui, excusez-moi, je voudrais rajouter qu'effectivement, parce que il y a nous, mais on porte tous nos frères en humanité, et c'est là que moi aussi, dans la prière, j'amène tous mes frères et sœurs en humanité qui ne savent pas qu'ils sont aimés. Et je les présente à Jésus. Et je dis, regarde tant de souffrances. Quand Jésus était sur la terre, il disait, mais j'ai pitié de cette foule. Ben, vous ne croyez pas qu'il a pitié de notre monde aujourd'hui? Moi, je lui amène tout ce monde-là. Et je lui dis, ben, regarde Jésus, regarde. Et je suis sûre qu'il se déverse sur notre monde.
Mais pour ceux qui n'ont pas la foi, il faut la demander. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la foi. Il faut oser être cash avec le Seigneur. De toutes les manières, il est au plus profond de notre intimité. Oui. Encore plus que nous-mêmes.
Oui.
Et donc, il faut oser, ceux qui nous regardent, qui n'ont pas la foi, en se disant, mais j'aimerais bien. Ben, il faut demander au bon Dieu. Il est loin d'être sourd et il demande que ça, qu'on s'ouvre, qu'on s'intéresse à lui, qu'on ait envie de le rencontrer. Donc il faut dire les choses, voilà, pardon Seigneur, je ne te sens pas, je n'ai pas la foi, ou par exemple je vais à la messe, je communie, je ne ressens rien. Donne-moi, je veux te rencontrer. Et
alors on a parlé de la prière, on a parlé de l'abandon à Dieu, en Dieu. Je voudrais qu'on évoque aussi quand même l'église joyaux pour la vieillesse, parce que l'église propose un accompagnement chrétien spécifique de par l'attention à apporter à la personne qui avance en âge ou aux malades. Et je vous propose de partir à Malétroit, justement, en Bretagne, pour voir la façon dont les sœurs augustines se préoccupent justement de ceux dont elles ont la charge.
Eh bien, c'est prêt.
Bonjour madame.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui.
Oui, moi aussi.
Comment allez-vous?
Je m'appelle Sœur Jeanne Aimée, je suis infirmière en consultation plaie à la clinique. Mes journées, le matin, se commencent par la vie de prière à la communauté. Donc on commence par l'office des laudes et par la messe. Et ensuite, je travaille à la clinique toute la matinée.
Ça va comme ça, madame?
Oui.
Voilà, je me suis changée. Je reviens de la clinique pour retrouver ma communauté, les sœurs, la vie de prière. Premier.
l'après-midi, ma vie est équilibrée, on va dire, entre la prière liturgique, la prière personnelle, et puis nos différentes charges dans la communauté.
Vous voyez, c'est pas compliqué. Quand j'ai plus besoin, je le remets en place.
Nous avons la chance à la communauté de vivre dans le monastère où a vécu Mère Yvonne Aimée. Et finalement, nous vivons aussi de son charisme, d'hospitalité, de chercher la volonté du Seigneur. Mère Yvonne Aimée a été une grande sœur pour nous, donc elle nous montre un petit peu le chemin aussi.
Elles sont toutes lumineuses, hein, les sœurs Augustines de Malétroit, au chevet des malades, au chevet des personnes qui avancent en âge. Vraiment un très beau témoignage. Elles sont lumineuses comme vous, sœur Marie-Claude. Hein. Je voudrais qu'on s'arrête sur une expérience que vous vivez, justement, vous, Adrien Seré, en accompagnant des dominicaines dans une unité de fin de vie. Et vous dites, quand on s'occupe des sœurs qui sont capables de s'abandonner dans le grand âge et qui sont capables de se présenter à Dieu, c'est pas la même chose qu'un EHPAD normal.
Oui, tout à fait. Donc, à Tours, on a déployé un EHPAD pour accompagner des religieuses, hein, 25 religieuses en fin de vie, dans le processus de leur vieillissement. Et donc, elles évoluent en communauté, en petits groupes de 25. Et on voit tous les bienfaits de la foi sur leur vieillissement et surtout sur leurs symptômes. En fait, la foi, c'est le meilleur des médicaments, entre guillemets, des anxiolytiques et des antidépresseurs. À vue humaine, Freud disait « la foi, c'est l'opium du peuple ». Mais pourquoi pas, finalement, l'opium en tant que thérapeutique, que un médicament qui apaise. Donc, pourquoi pas. Et on le voit, les religieuses, moi qui suis leur médecin, finalement, je ne leur prescris d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de sédatifs. Voilà. La foi permet un meilleur sommeil, une meilleure qualité de vie, et c'est prouvé par des études scientifiques. C'est ça qui est étonnant et merveilleux. Donc, même si, entre guillemets, il y a encore des doutes sur un éventuel au-delà, cliniquement, médicalement, la foi est la meilleure des thérapeutiques. Et on le voit au quotidien, elles s'entraident les unes les autres, c'est ça qui est merveilleux. Finalement, les religieuses qui sont un peu plus valides que les anciennes s'entraident, prient les unes pour les autres, sont aux petits soins, aident les soignants. Et on voit, aident les soignants en EHPAD. 40% des EHPAD en France n'ont plus de soignants, n'ont plus d'aides-soignants pour faire les nursing, etc. Donc c'est merveilleux, il y a une sorte d'entraide qui est bénéfique pour tous.
Et qu'est-ce que vous dites du projet de loi fin de vie qui a été présenté en Conseil des ministres cette semaine, examen à l'Assemblée nationale à partir du 27 mai. Qu'est-ce que vous dites de ce projet de loi en sachant que vous êtes en train de nous expliquer qu'il ne faut pas louper ces instants, hein, quand on entend vos témoignages à tous. Bien vieillir, c'est se préparer finalement à bien mourir. Alors qu'est-ce que vous dites ?
Moi, je dis que le projet de loi est un mauvais projet de loi. Bon, il y a deux volets. Il y a le volet sur les soins palliatifs, qui est bon en soi, mais il y a le volet sur l'aide à mourir. Donc, ce sont deux philosophies différentes. Malheureusement, le projet de loi n'est pas adapté, en fait, aux demandes de mes patients. C'est pour ça que je suis contre l'euthanasie. Mon argumentaire, il n'est pas théologique. Moi, je suis contre l'euthanasie scientifiquement et philosophiquement. Les patients, concrètement sur le terrain, ne me demandent pas à mourir. Ça fait 10 ans que je fais des soins palliatifs. J'ai accompagné plus de 1000 patients en fin de vie. J'en ai pas un qui m'a fait une vraie demande de mort. Il y a eu des fausses demandes de mort, des appels au secours, des j'ai mal docteur, des appels aux soins. Mais en développant les soins palliatifs, comme on le fait dans cette EHPAD pour les religieuses ou l'hôpital à domicile, en écoutant, en soulageant les douleurs et en entourant la personne psychologiquement, spirituellement, en l'aidant à se préparer justement sur la vie de l'esprit, toutes les demandes tombent. Donc cette loi n'est pas adaptée. Et le risque de voter cette loi, c'est de faire prendre du retard aux soins palliatifs, de changer complètement de philosophie d'accompagnement et de provoquer des dérives. On va ouvrir la loi, comme ce qui se passe en Belgique, aux enfants, aux personnes atteintes de maladies psychiatriques, aux troubles neurocognitifs. Voilà. On va ouvrir une boîte de Pandore qu'on ne va plus maîtriser et on va changer de paradigme sociétal. Moi, je préférerais qu'on aille sur le mouvement de société, qui, sur l'entraide et la solidarité, comme vous le vivez à Malétroit.
Puisqu'on parle de la vieillesse, parlons aussi du fait qu'il ne faut pas louper les derniers instants. C'est pour ça que l'euthanasie, finalement, est un sujet combattu par l'Église. Vous avez fait une expérience de mort imminente. Alors, on pourrait y consacrer une prochaine émission, hein, parce qu'on ne s'arrête pas sur un tel sujet comme ça. Mais vraiment, très rapidement, quel message vous faites passer à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent ?
Eh bien, qu'il faut se recentrer sur l'essentiel sans attendre d'avoir l'âge d'être âgé. C'est-à-dire qu'à tout moment, la faucheuse peut nous attraper, peu importe son âge, sa santé. J'ai fait cette expérience de mort imminente, j'étais en préparation d'un long métrage avec un producteur très connu qui a eu des Oscars et tout ça. Et c'est là qu'on a eu un accident de la route et je me suis retrouvée de l'autre côté face au Christ en larmes. Mais le message à faire passer, c'est vivons en état d'urgence, non pas dans une peur mortifère, mais pour se recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi, mes amis ? C'est Dieu ! C'est son amour et être des passeurs de son amour.
Alors avancer en âge, c'est justement penser à réussir sa mort. Hein. Ça paraît un petit peu bizarre, cette expression, mais c'est celle qui est employée par une paroisse, l'église Saint-Dominique à Paris, qui vous donne rendez-vous le 23 mai prochain à 20h, une conférence pour réussir sa mort. Écoutez, il y aura le père Olivier Derlincourt, qui est aumônier d'hôpital.
Et je me dis qu'il y a quelque chose de beau à dire qu'on peut essayer de préparer sa mort, un peu comme au XVIIe siècle, hein, on essayait de bien mourir. Et donc il y avait quelque chose d'un peu fort à parler de bonne mort, comme on disait alors. Mais il y a quelque chose de beau à pouvoir le dire. Oui, il peut y avoir une belle mort quand on prend sa vie en main et qu'on la donne, qu'on la rend au bon Dieu dans la confiance. Voilà, c'est ça qui peut paraître, c'est un peu cramé quand on dit réussir sa mort, mais c'est un peu comme saint Paul, mort où est ta victoire, d'une certaine manière, c'est un cri sublime, mais un peu fou, mais c'est dire que c'est être autant que ce soit possible en pleine possession de ses moyens jusqu'au bout, et en acceptant de regarder vers l'Orient, en regardant vers le Christ, autant que ça nous soit donné, voilà, et sans en être dépouillé.
Évidemment, on souhaite tous mourir en pleine possession de ses moyens, c'est pas toujours le cas, Adrien Serret. On arrive au terme de cette émission, donc un dernier mot sur le message que vous avez à délivrer quand on est au seuil de la mort, vos témoignages en tant que médecin.
Moi, je constate que c'est une continuité entre la vieillesse et la mort et qu'il faut se préparer au quotidien à se lâcher prise, cet abandon, cette posture qu'on voit bien se dessiner sur sœur Marie-Claude, une posture de lâcher prise, d'abandon, voilà, pour s'apprêter à faire confiance, se déposséder de son corps et aller vers la transcendance. Finalement, la mort, c'est une ouverture à la transcendance. Donc, cette continuité qui est importante à réussir.
Nathalie Saraco,
oui,
en un mot, la conclusion.
Le meilleur reste à venir. Voilà, le meilleur reste à venir à condition...
Il faut voir l'avancée en âge comme le meilleur reste à venir.
Oui, c'est
ça. On se prépare à la grande rencontre.
La grande rencontre dans ce fameux royaume de notre Seigneur qui est un royaume d'amour, comme dit Isaïe, où le lion sera avec l'enfant, l'enfant avec la vipère, où le mal, la souffrance et la mort seront à jamais éradiqués. Et donc... Oui, le meilleur reste à venir et ne perdons pas confiance. L'être humain souffre parce qu'il a besoin d'être aimé et il ne sait pas que ce Dieu merveilleux l'aime. Si seulement on s'ouvrait à l'amour de Dieu, mais nos vies seraient transfigurées et cela, peu importe les épreuves.
Et on voit les sœurs de Malétroit transfigurées justement parce qu'elles se sont ouvertes à l'amour de Dieu. Sœur Marie-Claude, le dernier mot de la fin, c'est le cas de le dire, c'est pour vous.
C'était très beau tout ce qui a été partagé là. Et je vous remercie chacun. Pour moi, c'est vrai que la vieillesse demeure quand même la plus belle étape d'une vie parce qu'elle va vers un accomplissement, un aboutissement. Et c'est le but de nos vies, on est attendu. Alors voilà, on va vers. Ouais, comme c'est marqué dans l'Évangile, soyez comme des gens qui restent en tenue de service, mais leur lampe allumée, qui attendent le retour de l'époux. C'est ça.
Merci infiniment pour ce très beau témoignage, sœur Marie-Claude. Merci Nathalie Saraco. Je rappelle que vous êtes réalisatrice et auteure. Dernier ouvrage, En avant les vieux, vous êtes l'armée du bon Dieu. C'est revigorant, c'est publié aux éditions Artege. Merci infiniment aussi à Adrien Serret, médecin généraliste et spécialiste des soins palliatifs. Je vous rappelle, la bonne lecture de la semaine, c'est bien entendu France Catholique qui fait sa une cette semaine à l'occasion des prochaines élections européennes sur Saint-Benoît, un patron pour l'Europe. La semaine prochaine, le christianisme au défi des nouvelles spiritualités. Ce sera une émission en quête d'esprit présentée par Aymeric Pourbet.